toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, sur l'antivirus, le patron de l'Organisation mondiale de la santé estime que le travail des autorités sanitaires n'est pas fini après l'évacuation réussie de plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage du navire MV Ondus, le foyer du virus. Au Liban, 6 personnes sont mortes hier dans un bombardement aérien israélien dans le sud du pays. Le Hezbollah a annoncé qu'il allait transformer la bataille avec l'armée israélienne en enfer. Et le président américain Donald Trump a estimé que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran était sous assistance respiratoire. Nous l'avons évoqué dans les titres, le patron de l'Organisation mondiale de la santé a estimé que le travail des autorités sanitaires n'était pas fini après l'évacuation réussie de plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage du navire MV Ondus, où un foyer d'antivirus s'est déclaré ces dernières semaines. Pour rappel, il a fait 3 morts. Le patron de l'OMS espère que les pays suivront ses conseils et recommandations. En France, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, tiendra une conférence de presse sur l'antivirus à 16h40. Cet après-midi, en compagnie de médecins, de spécialistes de l'épidémiologie et de la directrice de Santé publique France. Sur la guerre au Moyen-Orient, au Liban, 6 personnes sont mortes hier dans un bombardement aérien israélien dans le sud du pays, selon l'Agence nationale d'information libanaise. Et le chef du Hezbollah libanais, Naïm Kassem, a affirmé que la question du désarmement de sa formation exigée par Israël ne faisait pas partie des négociations, ajoutant que son groupe allait transformer la bataille avec l'armée israélienne en enfer. Et le président américain Donald Trump a estimé, lui, que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran était sous assistance respiratoire et dit qu'il envisageait aussi de relancer son opération de protection des navires pour franchir le détroit d'Ormuz. Et le principal négociateur iranien a averti que la réponse iranienne aux États-Unis devait être acceptée en l'état, faute de quoi les négociations pour mettre fin à la guerre échoueraient. Conséquence de la guerre, les prix du pétrole grimpent. Faute d'accord entre Washington et Téhéran pour mettre fin au conflit et réouvrir le détroit d'Ormuz. Et le principal complexe gazier des Émirats Arabes Unis ne devrait retrouver sa pleine capacité qu'en 2027, après les dégâts subis, selon l'agence, la compagnie qui l'exploite. Et les épreuves écrites et orales du brevet et du bac sont annulées dans plusieurs pays du Proche et du Moyen-Orient, ainsi qu'au Mali, afin de tenir compte des situations particulières dans ces pays, selon le ministère français de l'Éducation nationale. Dans le reste de l'actualité, un enfant palestinien est tué en moyenne chaque semaine en Cisjordanie depuis janvier 2025, soit un total de 70 sur la période, a dénoncé le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF. En Algérie maintenant, le journaliste français Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison et détenu depuis près d'un an, a reçu la première visite d'un diplomate français depuis son incarcération, selon Reporters sans frontières. Et enfin, en France, coup d'envoi des festivités ce soir pour le Festival de Cannes, avant 10 jours de compétition qui verront le film se disputer la Palme d'Or pour succéder à un simple accident du réalisateur Jafar Panahi, couronné en 2025. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. À suivre les dossiers du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Premier dossier, regard sur les sanctions adoptées hier par l'Union européenne. Des sanctions contre les colons israéliens extrémistes de Cisjordanie seront concernés, ceux coupables de violences contre les Palestiniens. Certains États membres voulaient aller plus loin, sans succès. On fait le point avec vous, Marc-Aurel Barrès.
Les sanctions restaient bloquées depuis des mois. C'est Viktor Orban, l'ex-premier ministre hongrois, réputé proche de Benjamin Netanyahou, qui était à la manœuvre. Alors maintenant qu'il est parti, la situation s'est débloqué. Sur X, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est félicité. C'est fait. L'Union européenne sanctionne aujourd'hui les principales organisations israéliennes, celles qui soutiennent la colonisation extrémiste et violente de la Cisjordanie. Selon lui, je cite, ces actes gravissimes et intolérables doivent cesser. En effet, 7 colons extrémistes et leurs organisations sont actuellement concernés, mais aussi 12 responsables du Hamas, Les sanctions prévoient un gel de leurs avoirs dans l'Union européenne et l'interdiction d'entrer sur le territoire des 27 États membres. Enfin, de son côté, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, fulmine. Pour lui, je cite, « Israël et les États-Unis se battent pour la civilisation contre les fanatiques djihadistes. Avec ces sanctions, l'Union européenne a révélé sa faillite morale. » Fin de citation.
Des sanctions adoptées donc, mais certains États voulaient aller plus loin.
Oui, en effet, face à la situation en Cisjordanie, des pays comme l'Espagne ont appelé à aller plus loin, faute de quoi l'Union européenne perdrait toute crédibilité. Rappelons que dans ce territoire, ce sont plus de 1000 Palestiniens, des combattants, mais aussi des civils, des nombreux civils, qui ont été tués depuis le 7 octobre 2023. Autre chiffre, c'est l'ONU qui le dit, un enfant palestinien est tué en moyenne chaque semaine en Cisjordanie. Alors face à cette situation, qui s'est mobilisé? La France, l'Espagne ou encore la Suède? Ils réclament des mesures pour limiter, voire interdire totalement les exportations israéliennes en Europe, l'Union étant le premier partenaire commercial d'Israël. Et pour le moment, la proposition n'est toujours pas sur la table à Bruxelles. On explique que la Commission traîne des pieds. Elle veut s'assurer une majorité sur ce point, ce qui reste encore à prouver.
Merci beaucoup Marc-Aurel Barrez pour toutes ces précisions. Réaction maintenant suite à cet accord de l'ex-président du groupe d'amitié France-Palestine au Sénat, l'ex-sénateur Gilbert Roger.
C'est un premier pas en avant de décision collective européenne et je pense qu'il était temps que nous marquions notre opposition à ce laisser-faire organisé par le gouvernement israélien avec, vous l'avez dit, parfois des bienveillances, hélas, en Europe, avec M. Orban, par exemple. On ne peut pas laisser des colons s'installer, organiser des violences extrêmes allant jusqu'à des meurtres et piller le peu de richesses de la Cisjordanie occupée.
Concrètement, qu'est-ce que ces sanctions vont changer, sachant qu'il n'y a pas de sanctions véritablement économiques aujourd'hui?
Non, il n'y a pas de sanctions économiques, mais vous savez, c'est un premier pas qui peut amener des citoyens ou des organisations à se retourner devant la Cour pénale internationale et nommément désigner des gens qui sont coupables de violences extrêmes. Donc ça peut amener des Israéliens à s'interroger eux-mêmes. On le voit bien dans les manifestations qui ont eu lieu ces jours derniers, où des Israéliens commencent à être inquiets de ces violences extrêmes.
La France a-t-elle été en pointe dans ce dossier? On se souvient des propos de l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui avait émis le souhait de donner des sanctions à l'encontre des colons.
Je pense que notre attitude gouvernementale va dans le bon sens et ça correspond à l'étape d'avant qui a été la reconnaissance de l'État de Palestine vivant aux côtés d'Israël.
Vous venez d'écouter l'ex-sénateur Gilbert Roger, ex-président du groupe d'amitié France-Palestine au Sénat. Second dossier, on va parler des relations entre la France et l'Afrique. Emmanuel Macron a annoncé 23 milliards d'euros d'investissement pour le continent, donc 14 milliards d'investissements strictement français, privés et publics, en clôturant le forum des affaires du sommet franco-africain à Nairobi, au Kenya. L'Afrique a besoin d'investissement plutôt que d'aide publique, ce sont les mots du président français. On l'écoute.
Normalement, ce type de sommet aurait commencé par une rencontre entre les dirigeants français africains ou européens africains, et les dirigeants européens seraient venus et auraient expliqué aux dirigeants africains: on a bien regardé votre situation, voilà ce qui est bon pour vous, on va vous aider. Et je crois que c'est plus du tout ce dont l'Afrique a besoin et ce qu'elle veut entendre. Le président l'a très bien dit hier, il dit: nous on veut plus ça, on n'a pas besoin que vous nous aidiez. Et ça tombe bien parce que nous on n'a plus totalement les moyens non plus, si on est lucide. Et en plus, ça fait plein de tensions. On a toujours des polémiques à la maison. Les gens disent vous les aider. Puis après, on a déjà tellement de problèmes, etc. Non, l'Afrique, elle est en train de réussir. C'est le continent le plus jeune au monde. C'est le continent qui a le plus de croissance au monde. Donc juste, l'Afrique, elle a besoin d'investissements pour être plus souveraine. Et nous, on a envie d'être des partenaires d'égal à égal, parce qu'en fait, on a exactement le même combat à mener en Europe. Et on commence ce sommet Africa Forward en vous écoutant, vous la jeunesse du continent africain, nous dire voilà mes rêves, mes ambitions, ce que je suis déjà en train de faire. Et nous, on vient en disant, bah ok, nous on a des investissements à faire, c'est intelligent pour vous, c'est bon pour nous, on le fait ensemble. La France, c'est une nation qui s'est toujours vue comme plus grande qu'elle-même, parce qu'on rêve plus grand, parce qu'on a construit cette histoire pour nous-mêmes. Moi, c'est ce qui fait que, il y a deux raisons qui fait qu'on a envie d'être avec vous aujourd'hui et que ce sommet est très important pour nous. La première, on veut investir à vos côtés, parce qu'on est sûr que ça va marcher. Ce combat pour la souveraineté, il est commun. Si vous échouez, on n'a aucune chance. Si vous échouez, votre jeunesse quittera, on aura plein de tensions migratoires. Donc on veut que vous réussissiez parce que c'est bon pour la France et pour l'Europe.
Vous venez d'écouter le président français Emmanuel Macron. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.